Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans l'émission Au bout du foot, une émission présentée par Eladji Makalou. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés et j'espère que vous êtes prêts pour cette soirée parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et il y aura beaucoup de débats avec nous autour de la table. Léo, comment ça va Léo ?
Ça va et toi Eladji ?
Ça va, super, bonne semaine de foot ?
Bon écoute, ça a été hein, la prochaine avec la Ligue des Champions, enfin celle à venir avec les retours de la Première Ligue et tout ça sera encore plus chargé, donc ça va être cool.
On espère en tout cas. Amadou, comment ça va ?
Ouais, ça va, tout doux. Hein. Bon, la semaine de foot, ça va. Bon, il y avait un peu de matchs de coupe. Bon, après là, ça continue dans la semaine. Il y aura encore du foot. En veux-tu, en voilà. Quoi.
On en aura en tout cas. Et avec nous, un nouveau chroniqueur, Jason. Comment ça va ? Bienvenue, Jason.
Comment va, Elaj ?
Ça va, super. Et toi, comment ça va ?
Ouais, ça va. Hein. Après une petite trêve internationale bien chargée, ben, place au championnat.
Je pense qu'on n'a même pas besoin de te présenter. On t'entend un peu avec l'accent, hein, ça va te trahir un peu, mais on dit rien pour l'instant. On arrive doucement, on dit rien pour l'instant. En tout cas, voilà Jason, merci d'être là déjà dans un premier temps. On va débattre de football, hein, on va partager notre passion, dans le respect bien évidemment, tous autour. Et en même temps, on va chacun donner son point de vue et ses analyses sur les matchs qui ont eu toute cette semaine. On va commencer bien évidemment par la Ligue. La Ligue 1, le Paris Saint-Germain qui se sont imposés avec des débuts un peu difficiles et qui se sont imposés 6-1. Hein, franchement, ils ont surclassé, étrié même, on peut dire, cette équipe de Saint-Etienne. On a pu voir l'Olympique de Marseille perdre sa deuxième place et en s'inclinant 3-1 face à Reims. Et on a pu voir Monaco, au détriment des Marseillais, récupérer la deuxième place et battre Nice lors d'un match renversant 2-1 avec un but de Biret et de Mbolo. Quelles sont vos impressions sur ces matchs-là, messieurs ? On va commencer par Jason, vas-y, je t'en prie Jason.
Bah, moi je dirais que déjà la bonne affaire, en partant du bas, si on part du bas, ça a été Le Havre qui a fait une bonne affaire,
ouais.
En grattant des points au niveau du maintien. Et ce qui concerne la haut, c'est Marseille qui s'est mis une épine dans le pied. En perdant à Reims, qui n'avait pas gagné depuis un moment, qui n'avait pas marqué depuis un moment, et là, qui tombait contre Reims, aïe, 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 et tous les autres poursuivants quasiment ont gagné, surtout Strasbourg qui commence à recoller, donc ça fait que la deuxième place et la troisième place deviennent compliquées, parce que sachant que la quatrième place, c'est la place de barragiste.
C'est ça.
Donc c'est la place à éviter pour toutes
les barrages équipes. Surtout qui ne réussissent pas trop à l'OM, on a pu le voir dernièrement, ça ne réussit pas spécialement à l'OM ces barrages.
Spécialement au club français.
Oui, surtout. Au club français aussi, c'est vrai.
Mais bon, on va voir ce que la suite de la Ligue nous réserve.
En tout cas, elle nous réserve pas mal de choses.
Exactement.
Et on espère en tout cas. Léo, qu'est-ce que t'en as pensé toi de tout ça ?
C'est un week-end chargé encore une fois avec des matchs intéressants puisqu'on avait plusieurs derbies ce week-end, le match entre Nice et Monaco, le Lille-Lens d'hier soir, ça a creusé l'écart. Paris a pu encore un peu plus creuser l'écart, d'ailleurs ils auraient pu être champions dès ce week-end si Monaco et Nice avaient fait match nul, mais ça a resserré celui entre la deuxième et la sixième place, il me semble.
Ouais, c'est ça.
Avec maintenant 5 points d'écart entre le deuxième et le sixième à 9 journées de la fin.
4 points
d'écart. 4 points même.
Ouais, 4 points. Bah avec Lyon, Lyon septième, ouais, 5 points d'écart avec Lyon septième.
Ok.
Voilà.
Parce qu'après, il me semble que c'est Brest, mais c'est à
Brest,
5 points.
Brest, ils sont à 40 points, ils sont à 5 points encore derrière.
Du coup, ça va nous donner un finish fort sympathique. On va dire entre guillemets, ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas de suspense pour le titre, mais ça, c'est une autre question. Et puis en bas, tu as parlé de la bonne opération du Havre, mais il y a aussi Reims qui a fait une super opération en s'imposant face à Marseille. Déjà parce qu'ils prennent un petit peu de marge sur la zone de relégation, et puis ils retrouvent un peu de confiance. Je pense que battre l'OM 3-0, 3-1, pardon, c'est pas donné à tout le monde cette saison. Et puis l'OM qui continue à perdre, lui, son avance, avec Balerdi en plus qui sera certainement absent pendant plusieurs semaines, voire jusqu'à la fin de saison.
Ouais, jusqu'à la fin de la
complique.
Saison, en tout cas, oui. C'est ce qui se prédit, en tout cas. Bien évidemment, on parle un peu du bas de tableau. Rennes aussi, qui ont réalisé un bel exploit encore, hein, qui se donne un grand bol d'air frais. Habib Bey à la tête de Rennes, ça va sûrement être le cas l'année prochaine, parce que, comment c'est parti, on pense qu'ils vont s'imposer, en tout cas qu'ils vont rester en Ligue 1, dans l'élite. Qu'est-ce que t'en penses, Amadou ?
Moi aussi, je pense bien. Bon, là, au début, il a dit qu'il va faire ses 6 mois... Là, c'est 6 mois de contrat et après, il verra à la fin de la saison. Mais bon, je pense que c'est en bonne voie. Je pense qu'il va progresser en même temps que cette équipe l'année prochaine. Après, ça dépendra des joueurs qu'ils auront l'année prochaine. Mais bon, c'est en bonne voie pour lui. Je ne sais pas s'il est encore maintenu. Rennes va se maintenir pour l'instant. Je pense que si. Ils sont bien partis pour se maintenir.
Ils sont bien partis. Pour l'instant, ils ont 32 points. Et ouais. Le Havre, qui sont barragistes, en ont 24. Voilà, ah, du coup, il y a quand même 8 points et c'est voilà, était seulement barragiste quoi. Il y a 8 points d'avance sur le Havre.
Surtout que Aize a décliné en disant que il allait rester à Nice. Pour l'année prochaine.
C'est ça. Du coup, on pense plus que en tout cas, il y a plus de chances que Habib Bey, surtout s'il fait du bon taf, parce qu'il est arrivé directement, victoire sur victoire, et des belles victoires avec des clean sheets aussi. Ça faisait longtemps que Rennes n'arrivait pas, et même enchaîner 3 buts comme ça dans un match, Rennes aussi, il peinait à marquer juste un petit but. Et là, franchement, on voit que c'est une équipe transformée, en tout cas, de cette équipe de Rennes. Cheikh Kenza, comment ça va ?
Bien.
T'es en cours d'anglais, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
On t'excuse pour le retard cette fois-ci. Cheikh Kenza, dis-moi, quelles a été tes impressions en tout cas sur ces matchs de Ligue 1, toi ?
Oui, je crois que vraiment le PSG a fait le taf. On a vu aussi en fait Marseille en fait qui est un peu sombré encore dans les travers de la saison dernière. Je pensais que vraiment c'était un match qui était, pour moi, je me suis dit en fait vu l'affiche que c'était un match qui était à la portée des Marseillais, mais ce que j'ai vu c'est un peu décevant dans l'ensemble. Après aussi Reims aussi, je crois qu'il y a eu le discours du coach qui est passé. Un petit sursaut d'orgueil parce qu'ils avaient besoin aussi pour remonter au classement et tout ça, pour ne pas en fait se saper eux-mêmes, se chier là-dessus. Donc ils ont fait le boulot, cette équipe marseillaise, il y a beaucoup de choses à voir. On a dit plein de choses qui n'étaient pas totalement vraies. Voilà, peut-être ce match aussi, ça montrera aussi vraiment le réel niveau de cette équipe. C'est-à-dire c'est une équipe qui est en fait qui n'est pas constante et ça coûte cher pour le haut niveau. C'est-à-dire il y a des bonnes prestations, il y a des moins bonnes et tout ça. Donc, et là, ils perdent vraiment en fait la deuxième place. Qu'ils avaient vraiment un écart, vraiment, même si qui n'était pas considérable face à Monaco. Mais Monaco qui revient petit à petit, et ça peut compter en fait pour la suite. Je crois que ça promet pour le reste de la saison, que ce soit les places européennes et barragistes. Mais concernant le championnat, pour le titre des champions, c'est déjà plié. Mais il y aura du suspense, et c'est ce qu'on aimerait voir.
Oui, c'est ce qu'on évoquait ici il y a à peu près 3 semaines, un mois même, que est-ce que Marseille sont assis assez confortablement dans leur siège, dans la place de Dauphin. Et c'est ce qu'on, en tout cas, c'est il y a beaucoup de chroniqueurs qui l'ont confirmé autour de la table. Oui. Et là, on voit que ça n'est pas le cas parce que là, Marseille sont 3e, et en sachant que Marseille vont affronter des concurrents directs, là, ils vont aller jouer à Toulouse. Bon, Toulouse qui ont un peu moins, qui ont moins de choses à jouer, mais ça reste quand même une équipe qui joue au football. Et juste après, tu vas aller à Monaco. Et après, à domicile contre Montpellier, même si tu sais que Montpellier sont pratiquement condamnés, mais ils ne le sont pas non plus, une victoire, ça peut changer beaucoup de choses parce qu'ils sont à 20 points. Hein. Mine de rien, ils sont à 4 points de la zone des barragistes. Quoi. Oui. On les enterre beaucoup, c'est vrai, mais attention, on ne sait jamais. Et ensuite, Marseille qui vont jouer à domicile face à Brest. Brest qui se sont imposés 2-0, d'ailleurs, 4-2 face à Toulouse. Oui. Et Lille, Marseille qui auront à Lille aussi. Le Havre qui joue le maintien, du coup, aller au Havre, ça ne sera pas tâche facile. Et à domicile, recevoir Rennes aussi, faudrait voir à la dernière journée, Rennes sont, en seront où lors du classement et voir s'ils ont quelque chose à jouer encore ou pas, à confirmer leur maintien ou pas. En tout cas, ça reste des matchs assez difficiles à jouer pour l'Olympique de Marseille, surtout que les matchs les plus faciles
sont les plus durs pour eux.
En fait, c'est ce que je voulais dire parce que de mon point de vue, je crois que c'était le match à ne pas perdre là. Pour rester toujours dans la bonne spirale, parce que ça compte aussi en football. Parce que quand on perd, bon, arrivé à un moment donné, le vestiaire commence à se chambrer après ce match là-dessus et tout ça. Donc, du coup, au niveau du moral, ça peut jouer un peu parce qu'ils avaient déjà un bon ascendant, ils étaient bien partis, la saison était déjà lancée. J'étais de ceux qui avaient dit que oui, Marseille, ils étaient bien assurés dans la place du Dauphin. Mais je crois que vraiment, ce qui nous montre, il y a un peu de désistement et ça ne promet pas vraiment, même la saison prochaine. Et j'hésite encore, peut-être qu'ils vont se réveiller, mais j'hésite encore pour ce qui vraiment serait un peu prometteur pour pourquoi pas aller essayer de titiller le Paris Saint-Germain, mais ça serait encore pour longtemps, je crois.
Ouais. Après, je pense que tout le monde s'est avancé avec Marseille parce qu'ils avaient un calendrier assez facile. Tout le monde se disait, bon, ils vont prendre des points à l'extérieur parce qu'ils étaient très bons, à domicile contre des équipes assez moyennes, mais au final, on se rend compte que toutes les équipes qui affrontent Marseille ont le même style de jeu. Et que ça fonctionne, c'est que tout le monde se met derrière et contre, étant donné que Marseille joue très haut, et comme Reims, il s'expose très 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 facilement, et la défense n'est pas de tout reproche dans cette équipe, et on l'a vu encore ce week-end avec Reims, ouais. C'est Reims, c'est 3 occasions, 3 buts.
Ouais. Et même ça parlait de demi-occasion même. Mais c'est ce que ça évoquait en tout cas pendant le match, mais c'est des demi-occasions qui sont transformées en buts. Voilà. Et surtout, Il y a ce questionnement, Jason, je voudrais savoir, qu'est-ce que toi t'en penses du cas Chancel Bemba? Pour toi, Chancel Bemba qui est toujours payé à hauteur de comme s'il jouait, plus ou moins, mais qui est mis à la cave, et pour l'instant, ça n'est pas une option encore pour l'OM, et en sachant que Chancel Bemba a fait une grosse saison la saison dernière, hein, que ça soit même en défense ou même en termes de but, qu'est-ce que t'en penses toi du cas Chancel Bemba?
Après le cas Chancel Bemba, tout ce que du côté sportif, ça a été décevant de la part de Marseille d'avoir réagi comme ça envers ce joueur. Mais je pense que le souci après est venu contractuellement parce que Chancel Bemba, il arrive en fin de contrat. Et donc, comme je pense qu'il ne comptait pas le renouveler, donc ils se sont mis en tâche de le vendre et qu'il n'y a pas eu d'accord pour le faire partir. Et que Chancel Bemba avait un très gros salaire à l'Olympique de Marseille. Donc lui n'avait pas envie de départ. Donc les deux parties ne se sont pas entendues et on sait comment ça finit dans le foot quand c'est comme ça. Hein.
En tout cas, ça finit comme ça à plusieurs reprises, hein, même si ça n'est pas la chose souhaitée, en tout cas, surtout pour un joueur, même pour le club. Hein, pour moi, ils sont tous deux perdants. Là, on voit avec l'hécatombe en défense, Chancel Bemba aurait largement eu sa place en défense pour jouer. Et je pense que ça aurait aidé pas mal les Marseillais à gagner ou peut-être grappiller quelques points.
Sur ça, on est tous d'accord.
Et bien évidemment, Lille qui sont imposés face à Lens, 1-0. Lille qui sont imposés un peu dans la difficulté. Hein. Au début, c'était un match maîtrisé jusqu'à la 80e minute à peu près. Et vers la fin, Will Steele a changé de composition tout simplement. Et on a pu voir les assauts de Lens, mais beaucoup de loupés de Nzola notamment. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match, Amadou?
Courte victoire de... Enfin, j'ai pas trop suivi ce match-là, mais enfin, j'ai juste les stats. Courte victoire de Lille, bon, dans le derby, hein. Après, pas beaucoup de points. Bon, ça s'est joué à pas grand-chose pour Lens qui aurait pu revenir au score, mais c'est vrai que Lens a un peu du mal contre les équipes de haut de tableau. Là, sur la fin, la dernière fois, ils avaient perdu contre Strasbourg. Et c'est Lille qui sort béni de ce match. Enfin, les 3 points, je pense que ça leur suffit.
Ouais. Merci Amadou. Quelqu'un a des...
Je dirais que Lille a eu de très grosses occasions dans ce match, surtout de leur nouvelle recrue Fernandez Pardo. Ouais. Il a beaucoup, beaucoup vendangé devant, donc qui aurait pu au moins mettre un triplé même sur ce match-là, parce que ça a été des face-à-face. Après, le gardien de Lens fait une très, très grosse boulette sur ce point-là. Franchement, le but s'est donné. Et de mettre déjà en galère son équipe alors qu'ils étaient déjà malmenés, ce n'était pas à les aider. Puis ils ont eu un sursaut d'orgueil en fin de match, mais ça restait en fin de match. Bon, après, on sait comment ça peut partir, mais ça n'a pas tourné dans le bon sens. Il y a eu des petites situations, on va dire la grosse occasion aussi d'Enzola en fin de match. Ouais. Mais bon, après, ça restait quand même poussif.
Ouais. Ça restait quand même poussif. On a pu voir hein, le contraste entre ces deux mi-temps hein, quand même. Première mi-temps, il y a eu 11 tirs, 5 cadrés pour Lille et 0 tir pour Lens. Et en deuxième mi-temps, on a pu apercevoir 5 tirs, 2 cadrés pour Lens et 0 tir pour Lille en deuxième mi-temps quand même. Voilà les stats assez folles quand même de ce match-là avec un accepted goal de 1,86 pour les Lillois. Qui sont un but, mais qui auront pu en mettre deux. En tout cas, ils avaient une moyenne pour en mettre deux. Et bien évidemment, on va parler de l'Olympique Lyonnais, hein, qui se sont inclinés face à Strasbourg. C'était un peu le même match, plus ou moins, parce que première mi-temps, assez maîtrisé des Lyonnais, avec des énormes occasions loupées. Mikotadze sur la barre, sur le montant, on peut y repenser. Et finalement, ça leur a porté préjudice, parce que Strasbourg sont revenus avec de meilleures idées en deuxième période, et a su les surprendre et à être clinique dans les moments où il le fallait et pour s'imposer 4-2. Qu'est-ce que t'en as pensé, Léo? Toi, supporter de Lyonnais, je suppose que tu es très déçu de cette performance parce qu'il y avait de quoi faire la bonne opération de cette journée.
Bah, si tu regardes sur un plan comptable, évidemment que tu peux être déçu. Si tu abordes un aspect un peu plus pragmatique, tu peux t'appuyer sur ce que tu as vu justement en première période parce que Il n'y a eu qu'une seule équipe sur le terrain. Et c'est pas une insulte aux Strasbourgeois de le dire, je pense.
En première mi-temps,
ouais. Oui. Après, je pense que ce qui a pêché, comme d'ailleurs ce qui pêche pour beaucoup d'équipes, on l'a vu hier, parce que le derby entre Lille et Lens était pour moi très décevant en termes de jeu, en termes d'intensité, en termes de duel, de tension, c'est que les équipes qui ont beaucoup d'internationaux, toujours en retour de trêve, on y est habitué, on le sait, ça va pas changer tout de suite. La fatigue, elle s'accumule, ce qui est normal aussi, parce que t'en as qui viennent du bout du monde, qui ont fait le tour d'un continent, qui sont partis, qui ont joué. Et ça s'est ressenti dès le retour des vestiaires, d'ailleurs, sur la période où l'OL encaisse les deux buts. Et puis après, Strasbourg a été plus talentueux aussi durant le second acte, on peut le dire. C'est une équipe, Strasbourg, qui est vraiment sympa à avoir joué. Puis tu sens que c'est une équipe qui prend plaisir aussi à jouer ensemble. D'ailleurs, tu le ressens à la fois dans les célébrations, dans les vidéos que tu vois sur les réseaux sociaux. C'est un groupe. Le problème, c'est que c'est le second couteau de Chelsea. Donc, c'est un groupe qui est amené à être brisé dans quelques mois. C'est le principe malheureux de la multipropriété, surtout quand t'es pas la tête d'affiche. Donc voilà, ils vont certainement aller accrocher l'Europe. Quelle coupe, on ne sait pas encore. À voir si leur inexpérience, parce que c'est une équipe assez inexpérimentée, va leur porter préjudice dans la course avec des champions ou à la Ligue Europa. Mais je pense que déjà, s'ils arrivaient à accrocher une place en Ligue Europa Conférence, ce serait très bien. Un grand bond en avant pour le club qui, il faut le rappeler, il y a quelques saisons encore, était en National. Donc voilà, c'est Strasbourg fait la très bonne opération puisqu'il dépasse même Lyon. Maintenant, il va falloir confirmer, j'ai pas leur calendrier en tête, mais il va falloir confirmer sur les dernières journées.
Merci Léo. Cheikh Kenza, toi, qu'est-ce que tu en as pensé du match de Lyon face à Strasbourg?
Bien, le match de Lyon face à Strasbourg, vraiment. Et comme il a dit, vraiment, les Lyonnais les a sentis un peu... comme on dit, un peu fatigué et tout ça. Mais par contre, Lyon aussi, ils font le match qu'il faut. Mais juste que peut-être manque un peu de chance, à mon avis. Parce que oui, ils sont mieux dans l'animation offensive. Que ce soit en fait, oui, sur les phases de jeu et tout ça. J'ai vu pas mal de belles choses. Et parce qu'ils ont la possession, ils dominent et tout ça. Même en nombre de tirs cadrés, ils sont meilleurs et tout. Mais je crois que les Strasbourgeois ont été plus réalistes. Voilà, ils ont été plus réalistes. Ils ont été plus, en fait, ils ont été plus concrets, comme on dit. Et c'est bien en fait parce que c'est une équipe, ça montre à quel point vraiment que le championnat français évolue. Parce que oui, parce qu'il y a quelques années, ces équipes-là, ils ne pouvaient pas battre des équipes en fait qui d'ogre, comme on dit, que ce soit Lyon, Marseille et tout ça. Donc on voit que le championnat en train de voilà, il y a une plus-value qui s'ajoute. On voit que vraiment il y a des équipes même qui n'étaient pas annoncées et tout ça, qui nous sortent de sacrées saisons, comme on l'a vu l'an passé avec Reims et tout ça. Et cette année, c'est Strasbourg qui est. Voilà, qui est un peu en fait le petit poussé qui vient un peu chambouler le grand. Donc c'est prometteur en tout cas pour cette ville et tout ça, pour voilà, pour ce club aussi, voilà, qui a vécu le pire. Je crois que j'ai eu du beau football, j'ai beaucoup aimé vraiment, c'est tous les attaquants et Mega et tout ça et Bakwa, vraiment voilà, qui sont super super bons.
C'est la bande de potes, hein, un peu à côté Strasbourg, c'est les ambianceurs, hein, toi tu aimes ça, hein, les ambianceurs, ceux qui dansent beaucoup, c'est, on a pu le voir, hein, avec l'immersion dans les vestiaires, on a pu voir comment ils ont, voilà, comment ils s'amusent vraiment, et tu vois que la moyenne d'âge, surtout, hein, la moyenne d'âge est très très jeune chez les Strasbourgeois, et tu vois qu'ils prennent seulement du plaisir en fait quand ils rentrent sur un terrain de football, et même avec le coach, hein, qui fait un travail
monstrueux.
Et
ce que j'ai beaucoup aimé, c'est en fait c'est le collectif, on sent qu'il y a un esprit. C'est ce qu'on est en train de revivre un peu avec le PSG. Désolé de ne pas déplacer un peu le sujet. Mais on sent que vraiment, il y a un collectif qui s'est créé. On sent que vraiment, que, voilà, que les copains peuvent se battre les uns pour les autres, en fait. C'est-à-dire, voilà, je peux mouiller le maillot, je peux faire le repli défensif et tout ça. Je peux me donner à fond. Quand je vois que le partenaire est bien passé, je lui fais une passe D. Et voilà, en fait, c'est-à-dire, c'est une équipe qui est plus altruiste, il y a très peu d'ego dans cette équipe. Et donc, du coup, ça ne peut que la propulser vers l'euro, quoi. Tout ce qu'on le souhaite, et je suis vraiment ravi d'avoir regardé ce match.
Merci, Cheikh Kenza.
Mais c'est surtout que, pour revenir sur l'ambiance qui règne à Strasbourg, c'est que c'est le contexte idéal, parce que c'est une équipe de jeunes joueurs. Tu vois que c'est une bande de potes, t'es dans un club où t'as pas d'ambition de Ligue des Champions, t'as pas... La relégation, le maintien, c'est quelque chose qui est quasiment assuré au vu de l'effectif. Voilà, tu es là, tu... Au mieux, tu performes et tu as peut-être des chances d'aller taper plus haut, voire même d'aller chercher une place à Chelsea. Au pire, tu restes à Strasbourg et tu disputes une Coupe d'Europe la saison prochaine dans le meilleur des cas. Ouais, il n'y a pas de pression, tu es là, tu as 22, 23 ans, voire même un peu moins. Pour le développement d'un jeune joueur, je pense que c'est la meilleure des choses possibles.
Merci, Léo. Quelque chose à redire sur...
Moi, je dirais que j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ce match. Franchement, ça fait plaisir en Ligue 1 de voir des matchs comme ça, aussi débridés.
Surtout en deuxième mi-temps.
Surtout en deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. En première mi-temps, Lyon a clairement dominé Strasbourg, qui n'arrivait pas du tout à se créer d'occasion. Et même moi, j'étais choqué, parce que je me disais, à la méno, Strasbourg, c'est solide, c'est très solide. Malgré la domination de Lyon, ils n'ont pas pris de but. Ils ont été solides, comme contre Toulouse. Et au retour des vestiaires, une autre équipe. Ils sont arrivés avec les dents longues et des appels tranchants. Moreira sur le côté, très remuant. Bakwa qui a fait très mal. Et Mega qui n'a pas cessé d'arrêter de faire des appels en profondeur. Et Lyon s'est senti démuni petit à petit. Et dès que le premier but est passé, ben, là, ça a commencé à complètement débrider le match. Et franchement, et après le résultat, bon, il n'est pas volé. Ça aurait pu se terminer sur un match nul en parlant en termes d'occasion. Mais les Strasbourgeois, comme mes collègues ont dit, ils ont été très chirurgicales.
Merci, Jason. Voilà, je vais rappeler le classement de la Ligue 1. Le Paris Saint-Germain premier avec 71 points. Le Paris Saint-Germain qui peuvent déjà être champions la prochaine journée face à Angers. Monaco, deuxième avec 50 points. Marseille, troisième avec 49 points. Nice, quatrième avec 47 points. Lille, cinquième, 47 points. Et Strasbourg, 46. Lyon, 45, septième. Et en bas de tableau, Montpellier avec 15 points. Pardon, tout à l'heure, j'avais dit 20 points. Non, ils sont à 15 points. Ils sont à 9 points du Havre, quand même. Et le Havre, 16e avec 24 points. Et Saint-Étienne avec 20 points. Reims, qui sont à la limite, avec 26 points, et Nantes-Angers à 27 points. Et après, le reste, c'est un peu décroché avec l'équipe de Habib Bey. Voilà pour la Ligue 1. On va se faire une petite virgule avant de revenir, bien évidemment, avec la FA Cup. On a pu voir Aston Villa surprendre, battre Preston. Et c'était la logique. Mais Preston qui avait fait une très belle campagne en FA Cup. Et Manchester City qui ont su renverser un match face à Bournemouth, hein, il faut le souligner parce que ça fait un petit moment que Manchester City est dans le dur, mais ils ont réussi à gagner 2-1 et pourquoi pas sauver plus ou moins leur saison en gagnant cette petite coupe. On arrive tout de suite. Ah. Manchester City qui se sont imposés 2 buts à 1 face à Bournemouth, Aston Villa face à Preston 3 buts à 0 avec un doublé de Rashford. Hein. Rashford qui commence à retrouver des couleurs à Aston Villa et c'est de tant mieux en tout cas pour lui. Crystal Palace qui se sont imposés face à Fulham 3 buts à 0. On a pu voir aussi Nottingham Forest s'imposer au tir au but face à Brighton et les prochains matchs perdent. En tout cas, les prochains matchs vont être décisifs. Hein. C'est les demi-finales, bien évidemment. Mais on voit Nottingham Forest qui vont affronter Manchester City et Aston Villa face à Crystal Palace. Amadou, qu'est-ce que tu en penses de ces matchs et de ce qui s'est passé en FA Cup ?
On a vu que Crystal Palace a fait le gros coup parce que gagner à Fulham, c'est pas très facile cette saison. Bon, après, là, on est sur une autre compétition. Mais aussi pour eux aussi, on ne sait jamais, ça peut être un objectif de fin de saison. Bah, Aston Villa aussi. Ça va être des bons matchs pour enfin les demi-finales et gros test, on verra ce que Manchester City va faire contre Nottingham qui a gagné au tir au but. Oui. City qui est revenu de nulle part avec Haaland qui avait raté un penalty, bon finalement qui s'est rattrapé, Marmouche qui je crois qu'il le remplace et c'est lui qui marque.
Oui. Ouais, Haaland qui sort d'ailleurs sur blessure.
Ouais. On a pu voir.
En tout cas, on espère que c'est pas grave, mais il y avait une attelle quand même, une grosse attelle quand il est sorti du match. Jason, qu'est-ce que tu en as pensé toi de ces matchs de FA Cup ?
Moi, je dirais que il y a eu un bon match entre Fulham et Crystal Palace avec le retour de Mateta.
Ouais, c'est à souligner.
Après son choc qu'il a eu avec le gardien au tour précédent.
C'est ça.
Donc déjà, ça fait plaisir de le revoir sur les terrains. Et après, il y a eu un match très engagé entre Bournemouth et Manchester City, ce qui n'est pas facile d'aller gagner à Bournemouth cette année, parce que cette année, ils jouent un rôle important aussi dans la Première Ligue.
Ouais.
Et cette coupe, je pense que tout le monde va la jouer à fond parce qu'elle est assez ouverte. Donc, s'ils pouvaient faire tomber l'ogre à domicile, ça aurait été de tout part pour eux. Mais City a réussi à se défaire de ce piège-là. Puis Aston Villa Preston, la logique a été respectée. Hein. Ça a été l'ogre contre le petit poussé. Et 3-0, net et sans bavure. Et en concernant le dernier match Brighton-Nottingham, ça a été un match de première ligue de deux équipes en forme. Deux équipes en forme, un match très serré qui allait jusqu'au penalty. Et on sait très bien que, bon, comme certains diront que c'est la roulette russe, d'autres non. Mais après, voilà, il n'y a qu'un seul qui sort gagnant et ça a été Nottingham Forest qui est sorti gagnant de ce duel.
C'est ça, Nottingham Forest qui avait des internationaux aussi qui n'étaient pas là, du coup, qui n'ont pas pu jouer. En tout cas, on pense aussi à leur attaque, hein, Chris Wood qui a été blessé, Oudoua qui a commencé sur le banc aussi. Mais malgré ça, ils ont réussi à assurer l'essentiel, on va dire, et s'imposer face à Brighton et ils iront défier Manchester City. Vous en pensez quoi de ces matchs-là ? Vous pensez que Manchester City peuvent gagner la FA Cup ? Parce que maintenant, c'est une réelle question. Hein. Il y a peut-être 2 ans, tu t'aurais dit non, Manchester City vont la prendre, c'est une formalité. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui est formel de ce côté-là.
Bah, s'il y a bien un moyen pour City de sauver sa saison, c'est de remporter la FA Cup. Déjà parce que c'est un trophée prestigieux en Angleterre. C'est le plus vieux trophée de l'histoire du foot, d'ailleurs. Donc c'est toujours quelque chose d'assez spécial, qui plus est qu'à partir des demi-finales, c'est une autre compétition qui démarre parce que tu vas jouer à Wembley, un stade de 90 000 places à Londres, donc t'as pas l'appui de ton public à domicile en tout cas, donc c'est toujours, il y a un contexte spécial autour de ces rencontres. Là tu vas retrouver Nottingham Forest qui t'a battu il y a quelques semaines au City Ground. En étant convaincant, c'est une équipe aussi que tu as battu 3-0 il me semble à l'aller, donc on peut considérer que ça, c'est une belle, que chacun va avoir envie d'appuyer sur la tête de l'autre. Moi je vois bien Nottingham passer parce que déjà ils font une saison exceptionnelle, personne ne s'y attendait, personne n'aurait misé le moindre centime sur le fait qu'ils se qualifient, parce que je pense qu'ils vont se qualifier en Ligue des Champions. C'est une équipe qui a de vrais bons joueurs, qui a de bonnes idées de jeu. Et puis voilà, City aujourd'hui, surtout si Haaland, je sais pas quelle durée d'indisponibilité est prévue pour lui, mais ça veut dire que tu perds ton meilleur buteur, parce qu'il me semble qu'il a même dépassé cette face à face à Bournemouth, les 30 buts en première ligue pour la troisième fois consécutive. Il n'y a que Van de Persie qui avait fait ça avant lui. Donc tu perds un atout majeur. Voilà, aujourd'hui, je pense que Forest va se qualifier. Et concernant le deuxième match, Crystal Palace, c'est une équipe intéressante. Glasner, il fait un énorme taf là-bas aussi. Aston Villa, voilà, qui a fait, comme l'a dit Jason, respecter la hiérarchie, pardon, avec Rashford qui a déclaré qu'il avait retrouvé goût au football. Donc ça, c'est bien, parce qu'on sait que c'est un très bon joueur de foot.
Quand il veut, oui.
Quand il veut, et il l'a prouvé à plusieurs reprises. Donc voilà, et puis même pour préparer le choc face au PSG et tout ça, c'était important de se qualifier. Donc je pense que les demi-finales vont être intéressantes. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que je peux en dire.
Merci Léo. Chekenza, qu'est-ce que t'en penses toi de ces matchs de FA Cup?
Oui, ça promet, parce que City a une chance pour sauver la saison. Bon, il y a Nottingham aussi, ça fait pas mal de temps qu'ils n'ont rien gagné aussi. Ça serait aussi un peu de renouer avec les titres, parce que c'est en fait...
Ça serait le Graal aussi pour conclure leur belle saison aussi.
Oui,
hein.
Oui, parce qu'en fait, c'est un peu des clubs rivaux et tout ça par le passé, parce que City ne gagnait pas toujours, et Nottingham, en fait, ça s'est chahuté un peu, même entre les supporters, quand il y avait des City Nottingham, avant que City ne gagne la Ligue des Champions. Donc, il y a une certaine petite rivalité. Parce qu'en fait, Nottingham a toujours été un grand dans l'Angleterre, vu que ces dernières années, ils ont été un peu à la perche et tout. Ben, je crois que ça promet. Et en fait, on a vu sur le dernier match que City avait un peu peiné. Même s'ils avaient la domination et tout ça, ils avaient la possession, mais c'était stérile. Parce que Nottingham aussi, ils savent aussi la jouer. Et puis, un entraîneur qui est expérimenté. Voilà, chaque fois qu'il a joué City, c'est par moment, il en a pris aussi, mais il a créé pas mal de problèmes à Guardiola. En fait, sur ses aspects tactiques et tout ça, en fait, sur sa vision du jeu, je crois que c'est pas gagné d'avance. Si tu risques même de retourner dans ses travails, parce que c'est un gros piège, comme on peut le dire. Donc, ça promet Aston Villa, je crois que oui, Brighton, oui, c'est un peu engagé, mais je crois qu'Aston Villa pourra le faire. Parce que là, ils sont. Oui, parce qu'ils ont retrouvé Aston Villa, Crystal Palace, oui, plutôt, parce qu'ils ont retrouvé vraiment la confiance avec des
Attention,
joueurs.
Attention, il y a une belle équipe aussi en face de Crystal Palace, oui, avec vraiment, Mateta,
c'est joueuses, et tout ça.
Ce sont des Smaïla Sarr.
Voilà,
oui, c'est joueuses, certes, mais avec, en fait, parce que la confiance, ça permet, en fait, comme on le disait, la confiance, ça permet même de déplacer des montagnes. Donc, au football, ça permet aussi, quand on a confiance, mais tout le monde réussit. Donc, il y a des choses qu'on ose et tout ça. Et en fait, quand on a confiance, on agit par moment par instinct. Tu vois, des joueurs vraiment, il y a 2-3 mois qui n'arrivaient même pas à faire peut-être des contrôles et tout ça, qui étaient un peu en fait dans le dur et qui reviennent en fait comme Rashford et tout ça et qui sont en confiance. C'est des grands joueurs en fait, même si vraiment par moments ils ont été moyens, mais avec la confiance, tout leur réussit. Donc, du coup, ça permet aussi d'avoir, on aura du beau football. Crystal Palace, ils sont lancés, mais Aston Villa, c'est Aston Villa vraiment. Et puis là, ils sont en pleine préparation vraiment pour attaquer le match avec le PSG. Donc, du coup, ça serait une série de confirmations, parce qu'il va falloir qu'ils confirment aussi. Voilà, pour montrer que là, ils ont un adversaire vraiment redoutable. Parce que donc,
ils affronteront le PSG avant d'affronter Crystal Palace en FA Cup, bien évidemment. Mais ok, merci Chekenza. Jason, tu t'es exprimé, non?
Non, sur les demi-finales, comme il a dit Romain, moi je pense que ça va être... Léo, pardon. comme a dit Léo, je pense que ça va être des matchs assez serrés, engagés. Mais moi, je pense plutôt que City ira la chercher, car City, ils n'ont plus que ça à jouer. Le championnat, ils doivent s'accrocher, certes, mais c'est le dernier trophée qui leur reste à aller chercher en dehors du championnat. Et Nottingham, certes, c'est une équipe surprise cette année, mais je pense qu'au bout d'un moment, ces équipes-là peuvent atteindre un certain plafond de verre. Et je pense que City vont essayer de faire parler de leur dynamique qu'ils ont actuellement pour essayer de passer ce tour. Mais en finale, ils tomberont. En tout cas, si c'est Aston Villa qui passe en finale, ça sera une très, très, très grosse finale. Mais... si c'est face à Crystal Palace, je pense qu'il y aurait plus de chances de la remporter. Et entre Crystal Palace et Aston Villa, ça serait un match très disputé parce que, comme vous avez dit, ils sortiront du match de Ligue des Champions. Donc ça peut faire en sorte qu'Emery fait un turnover au niveau de ce match-là. Mais moi, je pense que Aston Villa pourrait s'imposer chez Crystal Palace et City chez Nottingham.
Aston Villa vont affronter Crystal Palace, hein, c'est ça. Ils vont affronter Crystal Palace. Ça sera après la double confrontation face au Paris Saint-Germain. Hein. Comme le Paris Saint-Germain, ça va se faire en deux fois et ça sera directement. Mais attention, hein, moi, personnellement, je vois bien Nottingham Forest aller chercher cette FA Cup parce que franchement, Manchester City, cette saison, on les a tellement... On se disait, c'est reparti. C'est reparti, ils avaient battu Nottingham Forest 4-0, il me semble. 3-0. Et on disait que c'était reparti. On pensait que c'était reparti. Et après, non, finalement, on voit derrière, c'est assez difficile. C'est ça peine, mais bon, on verra ce que les prochains jours nous réservent.
Après, je pense juste. Pardon, excuse-moi. Après, je pense qu'il y a juste un aspect à ne pas omettre, c'est l'aspect motivationnel. Je pense que vous avez tous vu passer sur les réseaux sociaux ce week-end. Les images de Newcastle et de la célébration de leur League Cup. Il y avait 300 000 personnes dans les rues, ça a été fêté comme un titre, comme une Ligue des Champions pourrait l'être quelque part, parce que c'est un club qui n'avait pas gagné depuis 70 ans, c'est un club historique, donc je pense que des clubs comme ça, comme Nottingham, qui n'ont pas l'habitude de gagner, comme Aston Villa, comme Crystal Palace encore plus, je pense que pour les joueurs, et même pour le public qui va se déplacer en masse, ça peut jouer aussi inconsciemment sur leur performance, parce que évidemment, aujourd'hui, c'est plus ouvert que jamais, je pense. C'est comme en Coupe de France. Alors, je ne vois pas Dunkerque renverser le PSG, mais si on regarde déjà leur parcours, il est exceptionnel. Et si tu regardes la SCAN qui va jouer contre Reims, ils ont l'occasion d'aller en finale au Stade de France jouer le PSG. Et pourquoi pas, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le foot, évidemment. Mais je pense qu'il y a le facteur motivation qui est à ne pas oublier dans une compétition aussi ouverte sur des matchs couperés.
C'est ce qu'on pense, en tout cas, surtout en Angleterre. Hein. Oui, Amadou, tu voulais ajouter.
Non, et en plus, j'allais dire.
Amadou, dans le micro, s'il te plaît.
J'allais dire, ça sera une revanche aussi pour Aston Villa, parce qu'ils se sont fait éliminer par Crystal Palace en Carabao Cup. Hein. J'ai eu en 8e.
Ouais, du coup.
Ils avaient gagné 2-1 Crystal Palace là-bas, donc, ouais, bon. Il y a tout à gagner. On va dire, ouais, peut-être plus pour les outsiders, parce que City, on sait qu'ils ont déjà gagné plusieurs fois cette coupe. Et tous les autres, ils vont être motivés. Hein.
On espère en tout cas. Merci Amadou pour ces analyses. On revient, on va se faire une petite virgule avant de revenir encore avec... on va enchaîner avec la Serie A ou la Liga chez Kenza ?
La Liga.
La Liga. Toi, t'aimes beaucoup la Liga. on arrive juste après avec la virgule sur la Liga, bien évidemment. Le Real Madrid qui se sont imposés 3-2 face à Leganés et FC Barcelone qui se sont imposés aussi avec Lewandowski qui a répondu coup pour coup à Mbappé. On y revient de suite. Mbappé qui a porté cette équipe du Real Madrid avec un bon Jude Bellingham aussi. Mbappé qui a marqué son premier coup franc avec le Real Madrid et auteur d'un but sur penalty avec une Panenka. On a pu voir un match assez difficile pour le Real Madrid, mais voilà, ils ont assuré l'essentiel et le Barcelone qui se sont imposés face à Gironne. 4-1, on pense notamment à Maxence qui a été sur les lieux directement à Barcelone pour voir ce match-là. 4-1 pour Barça qui ne s'arrête pas, hein, tout simplement, qui sont en pleine bourre. Et on voit, hein, ça reste 3 points, 3 petits points. Mais ça n'est pas encore joué, mais ça va être décisif dans les prochaines rencontres. Qu'est-ce que tu en penses, chez Kenza?
Oui, ça promet vraiment cette Liga-là hyper prometteuse parce qu'on voit qu'il y a une suspense aussi. Bon, ouais, ils se sont répondus coup pour coup parce qu'en fait, je crois que le Barça est en fait, le Barça a plus d'assurance, voilà, dans le jeu parce que même face aux petites équipes, ils déroulent, voilà, ça joue en smoking et tout ça en fait. Donc, ça se salue moins en fait, ça déroule, ça met des buts. On sent qu'il y a un collectif, un sifflet, je lui tire les chapeaux parce qu'il a réussi vraiment à remettre cette équipe en confiance. Et tout ça avec son aspect tactique et tout, en fait. Et aussi, en fait, cette patte de la Masia qui a toujours été indispensable à l'équilibre du Barça. Donc, quand la Masia forme des meilleurs joueurs, on a un meilleur Barça. Quand la formation est aboutie au niveau de la Masia, on a des pépites vraiment qui sont phénoménales sur toute la ligne, que ce soit offensive et défensive. Et donc, on ne peut que se régaler. On ne peut que se régaler. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Lewandowski aussi, voilà, qui enfile les buts et tout ça parce qu'il est bien entouré, ce qui lui manquait aussi par le passé. On a un Rafinha qui est au sommet de sa forme. On a un Lamine Yamal dont on ne peut pas parler. Pedri qui est étincelant, qui ne finit pas de nous surprendre dans l'entrejeu et tout ça, en fait. Donc, il nous sort des masterclass. Du côté du Real de Madrid, par moment.
Du Real Madrid. Je ne peux plus te laisser dire ça, désolé.
On se pisse un peu là-dessus.
À chaque fois, il faut que je te reprenne.
Real Madrid, on se pisse un peu là-dessus parce que déjà, on a un match qu'on avait à notre portée. Ensuite, on encaisse deux buts. Deux minutes après un but qu'on marque, on n'est pas concentré. Donc, ça, ce sont des choses qu'il va falloir revoir si on veut titiller vraiment ce Barça qui est installé dans ce fauteuil de leader. Je ne crois pas qu'ils vont le laisser comme ça. Donc, parce que ça joue aussi la saison. La Liga l'année dernière, ils ne l'ont pas pris. Donc, cette saison, ils vont vouloir la gagner. Après Mbappé, il n'y a plus le mot pour lui, hein, parce que là, Mbappé, vraiment, il atterre toutes les critiques. Voilà, il fait que vraiment confirmer son statut de leader aujourd'hui. Du côté de Madrid, la presse s'enflamme, c'est comme ça. Quand les jeux sont beaux, ça parle. Quand c'est moins beau, ça parle, c'est comme ça. Donc Mbappé, vraiment, je suis très, très ému pour lui, parce que je sais que vraiment, c'est un super joueur. Il a démontré encore une fois, même quand il a touché le fond, il est revenu. Il n'y avait pas plus mieux que ça. Son coup franc, c'est extraordinaire, en fait. Déjà même, l'intention...
Chez Kenza va toujours grossir les choses.
Oui, mais l'intention déjà de le jouer...
Extraordinaire.
Oui, l'intention déjà de le jouer, il la met là même, où en fait, tu vois, dans le mur et tout ça, en fait, tu sens que c'est quelque chose qui est travaillé. Ce n'est pas des choses qui se sont faites comme ça, en fait, par le hasard, comme on dit, même si, par moment, au foot, le hasard n'existe pas, mais c'est travaillé, c'est des choses qui sont bien faites. Et on voit la Panenka aussi, ça montre en fait la confiance du joueur, l'assurance qu'il a. Ça montre que vraiment, comme il a dit, il est dans son jardin. Donc, il peut vraiment qu'il aime les fruits, planter comme il veut. Donc, on aura une très belle saison.
Il aime beaucoup les punchlines aussi. C'est du grand Cheikh Kenza qu'on a ce soir. Hein. Merci, Cheikh Kenza. On va faire une compilation de toutes tes punchlines de toute l'année, je pense, pendant une émission. En tout cas, merci, Cheikh Kenza. Léo, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du match du Real Madrid ? Parce que tu t'es exprimé que sur le match du Real Madrid.
Moi, je pense que le Real et le Barça ont gagné, mais le résultat le plus important du week-end, c'est l'Atlético qui a fait le match nul, parce que ça les décroche de la tête. Ils sont à 9 points du Barça maintenant, il me semble.
Ouais, c'est ça.
Donc, je pense, et d'ailleurs, Diego Simeone, il me semble, l'a dit en conférence de presse d'après-match, que pour l'Atlético, c'était pratiquement terminé, même si évidemment, il reste des journées et que effectivement, c'est imprévisible. Aujourd'hui, tu as le Barça qui semble, comme l'a dit Chekenza, dans une forme... ils ont trouvé leur rythme de croisière.
Une forme étincelante. Voilà.
Voilà, exactement. Ils ont trouvé leur rythme de croisière. On sent que tous les joueurs adhèrent à la méthode de Flick. Même les joueurs qu'on critiquait à juste titre l'année dernière ou il y a deux saisons, je pense l'exemple le plus criant pour moi, c'est Ferran Torres qui a marqué son 22e but. Enfin, il a 22 buts et passes décisives cette saison pour un joueur qui est très rarement titulaire, qu'on a connu très, très, très tendre devant les cages. Tout le monde est impliqué, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Comme je l'avais dit il y a deux semaines, je ne sais pas où ça finira. Est-ce qu'ils gagneront la Liga, la Ligue des Champions, on ne le sait pas encore, ou la Coupe du Roi même, parce qu'ils sont encore engagés aussi, mais en tout cas, je pense que les supporters et même les joueurs avant tout prennent du plaisir dans cette équipe, et je pense que c'est le plus important dans le football. Concernant le Real, on voit qu'ils gagnent encore. On ne va pas reparler encore de la manière dont ils jouent, parce qu'on sait, on connaît le Real, on connaît leur système, on connaît l'ADN de cette équipe à gagner, même quand c'est pas forcément brillant, mais ça gagne et c'est le plus important. Mbappé, effectivement, qui est exceptionnel de par ses statistiques. Je crois qu'il a égalé la saison de Cristiano Ronaldo, la première en tout cas, et qui devient le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid lors de sa première saison. Donc c'est
non, pas encore, il ne l'a pas dépassé.
Il n'est pas à 33 buts.
Il est à 33, c'est ce que
Ronaldo aussi,
Cristiano Ronaldo avait fait, et c'est ce que aussi Van Nistelrooy avait fait aussi. 33 aussi, okay, à égalité. Mais maintenant, il faut savoir aussi, une petite précision par rapport à ça, Cristiano Ronaldo l'a fait avec 33 matchs. En 33 matchs, ouais. 33 buts en 33 matchs. Van Nistelrooy l'a fait avec 45 matchs, et Mbappé avec 47 matchs.
Ok.
Voilà.
Faudra voir à la fin de la saison pour calculer le ratio et voir qui aussi. A fait le
mais
le
on
meilleur,
regarde mais... tout simplement, voilà, c'est Cristiano Ronaldo le meilleur ratio, mais ça c'est sûr. Non, mais 33 matchs, 33 buts. Il peut pas faire mieux dans tous les cas, Mbappé. Hein. Sauf s'il met 50 buts. Oui, sauf s'il met 50 buts en 50 matchs.
Mais peu importe, voilà. Le fait qu'il ait déjà mis 33 buts sur une saison d'adaptation au Real Madrid, c'est déjà quelque chose de très fort. On lit beaucoup sur les réseaux sociaux qu'il y a, je crois, il y a 12 pénaltys, c'est là-dedans, mais bon, les pénaltys, il faut toujours les marquer. Je suis pas partisan de l'idée que le pénalty c'est quelque chose de...
Il en a raté en plus.
Hein. Il en a raté en plus. mais je suis pas partisan de l'idée de dire oui, le pénalty c'est de la loterie, le pénalty ça se prépare. Donc voilà, s'il les prépare, d'ailleurs il l'a prouvé, il en plante deux en finale de Coupe du Monde, c'est que le mec il les a préparés à la fois psychologiquement et techniquement. Donc voilà, Mbappé effectivement, très très fort. Et puis voilà, le Real, comme attendu, va jouer jusqu'au bout sa chance à la fois en Liga et en Ligue des Champions. Donc le duel s'annonce passionnant, sachant qu'il y a un classico à venir. Donc ce sera le match du titre, je pense, en Espagne ces prochaines semaines.
Merci Léo. Jason, qu'est-ce que t'en as pensé toi de ces matchs de Liga, en sachant que on a pu voir aussi un Mbappé qui a mis un doublé et Lewandowski qui lui a répondu dans la foulée, hein, avec un doublé et qui reste à 3 points de plus que à 3 buts de plus que Mbappé, le même nombre de points que séparent les deux clubs. Pour toi, qui finira Pichichi de cette saison, Jason?
Franchement, les deux se tirent la bourre. Lewandowski très en forme. Et d'abord, je tiendrai à dire chapeau à Flick, parce qu'il a transformé cette équipe en rouleau compresseur. Et ça me fait penser au Bayern quand il les avait. Et défense haute, avec un milieu de terrain assez agressif et très technique, qui se projette vite vers l'avant et qui sait aussi conserver la balle. Donc, c'est un peu une équipe un peu tout terrain. Et qui épuise son adversaire, on va dire qu'il les sort même. Et Lewandowski est un de ses joueurs, on peut dire, favoris à Flick, hein, parce qu'il a eu plusieurs fois. Ouais. Il sait comment maîtriser le bonhomme, ouais. Et il sait comment le faire briller. Et en tout cas, il réussit de toutes parts à le faire. Et en question d'Mbappé, il s'en sort malgré un Real très, très, très poussif. Hein. Le Real, c'est très compliqué. Par contre, niveau défensif, c'est très dur pour Ancelotti. Le Real, malgré tout, arrive quand même à s'en sortir à chaque fois. Hein. On ne dit pas pour rien que c'est l'un des plus grands clubs au monde, ou certains, pour certains, le plus grand club au monde. Et...
Pourquoi tu rigoles?
Pourquoi tu regardes chez Gonza?
C'est vrai, c'est ce que beaucoup disent, en tout cas. Hein. C'est ce qu'on entend, en tout cas.
C'est ce que beaucoup disent. Après, chacun est libre d'avoir son avis.
C'est ça.
Mais le Real, cette saison, défensivement, c'est très, très dur. Mais ils se font un peu sauver par les individualités, dont Mbappé qui brille au sein de ce collectif. Et j'ai l'impression qu'il s'en sort beaucoup mieux quand Vinicius n'est pas là.
Ouais.
Il prend un peu plus le leadership. Et sinon, en tant que Pichichi, franchement, moi, je mettrais plus une pièce sur Lewandowski.
Ok, donc toi, tu vois pas Mbappé revenir à hauteur?
Je vois Mbappé continuer, mais Lewandowski finit toujours par égaler Mbappé, donc ça va être très dur.
Merci. Oui. Mais avec les échéances à venir en Ligue des Champions aussi, on peut penser notamment que des fois, Flick aime bien changer,
faire tourner,
mettre Ferran Torres pour lui laisser un peu de temps de jeu aussi et pour titulariser Lewandowski derrière, parce qu'il n'est plus tout jeune aussi. Mais maintenant, avec cette concurrence, est-ce qu'il fera le même choix? Et Ferran Torres aussi, qui est toujours bon hein, quand il rentre, en tout cas ces derniers temps, il marque beaucoup, lui qui a été beaucoup énormément critiqué, à juste titre d'ailleurs, surtout à Manchester City, et même au début, dans ses débuts au Barça aussi. Et là, on voit ça, du coup, est-ce que ça aussi, ça peut ne pas peser dans la balance, même si on sait qu'ils ont Dortmund à jouer et qu'ils sont largement favoris, Amadou?
Tu parlais du Pichichi, ça va être très très disputé, mais j'ai l'impression quand même que Mbappé, à un moment donné, il pourra peut-être finir par passer devant, parce que Lewandowski, sûrement... sera remplacé pour faire tourner par Ferran Torres. Et Mbappé, en général, il sort pas comme ça, quoi. Même où il va sortir, il restera 10 minutes, un quart d'heure. Donc je pense que ça va jouer serré. Qui sait, est-ce que même il n'y aura pas une égalité?
Et si vous avez remarqué, même Lewandowski, quand il est remplaçant, il lui suffit même de 20 minutes pour marquer un but.
C'est ça.
Parce que exactement. Plusieurs fois, il est rentré en cours de jeu en remplaçant Ferran et ça ne l'a pas empêché de
mettre
marquer,
son petit but. Voilà. C'est ça.
Ferran ou Fermin, il y a Fermin Lopez des fois. Enfin, après, lui, c'est sur, un peu sur les ailes, mais...
Mais en fait, le problème, de pourquoi tu as décidé de mettre une pièce sur Lewandowski? Parce qu'en fait, on a comme l'impression que cette équipe, en fait, elle joue pour Lewandowski, même si par moment, il y a des espoirs, en fait, de la Miami. Mais en fait, tu sais
qu'en
fait...
Excuse-moi, chez Kenza, je voulais revenir là-dessus, là, sur ce que tu viens de dire. Pour moi, justement, si il jouerait pour Lewandowski, Lewandowski serait à au moins 35 buts en Liga. Pour moi, pour moi, il ne joue pas du tout pour Lewandowski. Hein. Peut-être la saison dernière, on voyait même Lewandowski réprimander beaucoup de fois Lamine Yamal, mais aujourd'hui, ça n'est plus possible. Lamine Yamal se permet certaines choses que moi, je vais regarder. Par exemple, j'aime beaucoup regarder le Barça, hein. C'est un plaisir de les voir jouer au football. Et quand je les regarde, même hier, quand j'ai regardé le match du Barça, je vois tout de suite que Lamine Yamal a 2-3 occasions, même en fin de match, il peut servir Lewandowski dans un fauteuil, dans un fauteuil, et il ne le sert pas. Il ne le sert pas. Et ça, je l'ai vu à plusieurs reprises pendant plusieurs matchs. Que ça soit lui, Rafinha, il va servir encore parce que Rafinha, il a beaucoup de passes décisives. Il marque, hein, mais il a beaucoup de passes décisives aussi. Mais Lamine Yamal, il va un peu plus croquer le ballon. Et là, on sent que Lamine Yamal pousse pour être un peu le leadership et voler en tout cas cette place offensivement. Et c'est ce qui va un peu. Voilà. Du coup, vraiment sur ce point-là, je pense que je tenais à dire
non,
que.
Non, mais par contre, moi, mon avis est un peu mitigé là-dessus. Hein, parce que moi, je me dis qu'en fait, que c'est ce qui fait un peu l'avantage de Lewandowski. On a comme cette impression que oui, en fait, ils vont pas vraiment, en fait, tu penses que c'est pas tous les ballons qu'ils vont lui donner, mais on sent que cette équipe, par moment, en fait, Lewandowski l'a mis dans de meilleures conditions que Jean-Claude Mbappé, qu'on le veuille ou pas, en fait. C'est ce que je voulais dire, on peut dire.
Après, c'est le jeu qui veut ça, c'est que voilà, le Barça développe un certain jeu qui met à l'aise Lewandowski.
Oui.
Plutôt qu'un Mbappé, et tant que Mbappé n'est pas un vrai numéro 9, il découvre le métier de 9 pur. Donc, c'est ça qui le met aussi un peu à son désavantage. Mais sinon, comme on a dit, tout ne joue pas autour de Lewandowski au niveau du Barça, parce que sinon, ça serait comme les années Bayern. C'est même quand Coman il pouvait tirer, ce n'était pas sans retrait sans cesse. Que là, si tu c'est vois ça. Bien, Rafinha, s'il a une porte, il frappe.
Il frappe,
y a mal pareil. Et c'est quand ils sont dans certains angles, on va dire qu'ils cherchent la deuxième solution, Lewandowski. Ouais. Mais sinon, l'État serait parti.
Mais malgré tout ça, ça fait deux toujours des lieutenants de Lewandowski, qu'on le veuille ou pas, en fait. Ils sont toujours des lieutenants parce qu'ils ne peuvent pas, là déjà, même si c'est vraiment les lieutenants, ils essaient de prendre du galon, mais qu'on le veuille ou pas, ils sont toujours des lieutenants, en fait. Même si c'est Rafinha, cette saison, il en a pris plus un peu en maturité, voilà, parce que même s'il est capitaine en termes de statut et tout ça au niveau du Barça, si ça compte, mais qu'on le veuille ou pas, en fait, et c'est Lewandowski qui est toujours le fer de lance de l'attaque, c'est lui qui est toujours le capitaine, en fait, comme on dit, la tête de gondole de cette attaque, donc ça ne changera pas. Donc du coup, qu'on le veuille ou pas, il y a un travail qui est fait aussi pour le mettre dans les meilleures conditions. Peut-être que Flick a dû jouer sur un discours où si vous avez vraiment des possibilités de marquer, ça se la joue un peu solo, mais pour le collectif, il va falloir que Lewandowski aussi enfile les buts. C'est ce que je voulais, c'est ce que j'avais à dire.
Ouais, c'est vrai qu'aussi, enfin, en même temps, c'est vrai, comme disait notre ami là,
Jason.
Ouais, Jason, excuse-moi. La minimale tente plus aussi de dribble parce que bon, il y a une hype aussi autour de lui. Bon, il est obligé de se montrer et il va vouloir plus scorer. Et c'est même arrivé des fois qu'il fasse une frappe, il manque la frappe et ça se transforme en passe décisive pour Lewandowski. Donc, à voir. Après, il faut voir avec l'effectif qui va tourner. Mais Mbappé, je pense, comme aussi lui aussi, il veut se montrer. Ça se trouve, il va peut-être prendre. Pas avec les pénaltys, je ne sais plus c'est qui le numéro 1 là. C'est Vinicius ou Mbappé?
Vinicius a été retiré.
Ouais, donc je pense que Mbappé, il va tout faire pour vouloir passer devant.
Après, moi, il y a quelque chose sur laquelle je ne suis pas d'accord. Il y a une chose sur laquelle je suis pas d'accord sur Lewandowski. Aujourd'hui, je pense que Lewandowski, le Barça ne joue pas pour lui, mais le style de jeu mis en place par Flick lui convient. C'est-à-dire que c'est un style de jeu où tu vois que tu as beaucoup de joueurs qui se projettent dans la surface. C'est-à-dire que ça multiplie ses chances forcément que le ballon lui arrive.
D'être là au bon moment.
Sachant qu'aujourd'hui, il a 36 ans, 36. Il va sur ses 37. C'est plus le joueur qu'on a connu au Bayern, mobile, capable d'aller chercher. Je trouve que le match qui illustre le mieux toutes les qualités de Lewandowski, c'est le match où il met le quintuplé en 9 minutes contre Wolfsburg, où tu vois qu'il marque dans différentes situations. Aujourd'hui, c'est plus un joueur qui est
de surface, en
de surface exactement. Et le fait que tu offres aux joueurs la possibilité...
Excuse-moi dans le micro, s'il te plaît.
Pardon. Le fait que tu offres aux joueurs la possibilité de pouvoir profiter de possibles seconds ballons, ça avantage forcément son rendement. Parce qu'aujourd'hui, tu as Lamine Yamal qui rentre dans la surface, tu as De Jong qui est quand même un milieu de terrain de projection, tu as Rafinha aussi, tu as beaucoup de tentatives de frappe de loin qui sont souvent cadrées, mais que le gardien repousse dans les pieds de Lewandowski. Aujourd'hui, Lewandowski, c'est vraiment un neuf de surface, alors qu'avant, c'était un neuf vraiment plus complet, un peu à la Harry Kane, si on veut élargir le trait. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas forcément le fait que l'équipe joue pour lui, c'est que l'équipe le met en valeur parce que le style de jeu le met en valeur.
Merci Léo. L'Atlético de Madrid, hein, qui ont fait 1-1 face à l'Espagnol Barcelone et qui ont réalisé la mauvaise opération de cette journée de Liga. Pour vous, qui sont vos favoris tout simplement là pour cette Liga pour toi, Léo, qui va.
Moi, je vais rester sur le Barça parce que pour toutes les raisons qu'on a évoquées, mais je pense que ça va être serré jusqu'au bout. Mais oui, je pense que le Barça. Après avoir aussi les parcours en Ligue des Champions, parce que ça va forcément demander de l'énergie, mais sur la dynamique actuelle, je vois plus le Barça, et puis au classement aussi, parce qu'ils ont 3 points de plus tout simplement. Tout peut arriver, mais je pense que sur la dynamique actuelle, je donnerai le Barça favori.
Merci Léo. Chez Kenza ?
Moi, le Real Madrid.
De toute façon, même s'ils sont à 20 points, tu dirais le Real.
Non, en fait, c'est... non, là, je suis réaliste parce que, en fait, c'est jouable. S'ils étaient à 20 points, je te dirais non. Parce que j'ai le droit de faire la partialité. En fait, je dois être partiel parce que là, je suis sur un plateau. Je suis pas en train de discuter dans la rue, dans le 13e ou dans le 18e, quelque part. Mais je crois que le Real a les atouts pour le faire mal. Voilà, pourquoi pas le choper le titre à 2 saisons. Ça serait vraiment. Peut-être, ça serait un coup dur pour le Barcelonais. Mais. Ça va se jouer en fait, c'est-à-dire c'est passionnant, on va aller jusqu'au bout du suspense et le meilleur gagnera. Mais je mise sur le Real de Madrid.
Donc le meilleur pour toi c'est le Real aussi.
Voilà, pour l'instant.
Merci, merci Cheikh Kenza. Amadou ?
Là je dirais, dans la dynamique actuelle, là c'est Barcelone. Cependant, maintenant, ce qui passe c'est là dans la saison, on voit qu'il y a souvent beaucoup de casses. Il y a beaucoup de joueurs qui se blessent, ils sont jeunes, ils se blessent, donc à voir sur les dernières échéances. Et là, ce qui fait aussi qu'ils sont encore favoris, c'est par rapport à la confrontation directe où ils ont gagné 4-0 à Bernabéu, et sachant que le championnat, même s'il se retrouvait à égalité avec le Real, ça se jouerait sur la confrontation directe. Maintenant, à voir sur les blessures. Et ici, le recours de la Real Sociedad, c'est quelle équipe ? De Osasuna. À part si le recours de Osasuna fonctionne pour gagner sur tapis vert le match contre Barcelone où Inigo Martinez n'aurait pas dû jouer normalement. Sinon,
oui, mais on sait très bien que ce genre de réclamation, on sait très bien que ce genre de réclamation, c'est très rare qu'ils sont pris en compte ou considérés, surtout quand ça peut coûter un titre. C'est même pas juste 3 points et le Barça, ils ont 15 points d'avance ou quoi. Non, ça peut leur coûter le titre clairement. Du coup. J'y crois très peu à ce genre de choses. Voilà. Jason, toi, alors qu'est-ce que t'en penses
Franchement, j'ai pas forcément de favoris, j'attends de voir. Après, concernant l'Atlético Madrid, ils se sont gâchés la fin de saison. Ils sont tombés contre une bonne équipe de l'Espagnol qui est très dure à manœuvrer à domicile. Ils ont déjà fait tomber le Real, ils ont accroché l'Atlético Bilbao. C'est une équipe pas du tout facile à gagner. Et malgré... L'absence, mais Alvarez qui était sur le banc, qui n'a pas pu débuter vu qu'il était en sélection.
C'est ça.
Et je pense que ça a été un gros coup dur pour eux sur la compo de départ.
Pourtant, avec Sorloth qui réalise des bonnes performances. On se disait, Sorloth qui est le super sub incontesté, je pense, des 5 grands championnats. En tout cas, avec son ratio de but, dès qu'il rentre en jeu, il marque,
Et comme tu l'as signalé, quand il rentre en jeu,
ouais,
le problème, c'est qu'en tant que titulaire, il est moins performant qu'en tant que super sub. Et Alvarez, maintenant, est un attaquant incontournable au niveau de l'Atlético. Et je pense que c'est le facteur X de cette équipe. Et là, son absence en début de match leur a causé du tort. Mais sinon, en tant que championnat, je sais pas, j'ai pas forcément de favoris. Ça va être disputé jusqu'au bout.
Tu veux pas te mouiller ?
Non.
Hein ? Allez, il faut que tu nous en donnes un. En tout cas, tout le monde a joué le jeu. Vas-y, Jason, donne-nous un. Allez.
J'opterai plus pour le Barça.
pour le Barça. C'est ce que, en tout cas, ça sera le choix du cœur.
C'est ça.
C'est ça, ok. On a compris. Merci.
C'est pas le choix du cœur.
Merci, Jason.
Bon, si moi, j'avais un mot à ajouter. Je crois que, en fait, le classico retour, en fait.
Ça
le
fait trois mots retour, déjà, ça fait déjà trois mots, mais vas-y.
Le classique retour, le 11 mai, ça sera un peu décisif, en fait. C'est là que va se dessiner vraiment l'âme de champion. Parce que vraiment... Oui, il y a le retour, le classique.
Ouais, il y a, ouais, sinon, il y a le retour. Voilà. Mais par rapport à la Ligue des Champions, voilà. Il sera placé quand?
Bon, le retour, c'est le 11 mai.
C'est le 11 mai, donc 11 mai. Ce sera entre les demi et la finale,
ouais,
je pense.
Ouais,
je pense.
Ouais, voilà. Ça sera entre les deux.
Et comme je pense, Barcelone, ils vont
bon,
jouer contre
Paris. Il y aura ça, c'est pas un problème. Ouais. Le souci du calendrier, parce qu'ils sont préparés pour, c'est des athlètes de haut niveau. Donc, il y a une monture qui est ménagée pour qu'ils soient dans de meilleures conditions physiques et tout. Donc, je crois que le Real, c'est là qu'on va les faire mal. C'est ce que j'avais
dit. Ok, merci, Cheikh Kenza. Bah, on va se faire une petite pause avant de revenir avec la Serie A. La Serie A, tout simplement, bah, qui est aussi alléchante. Hein. On voit avec, on peut dire, un peu un mano à mano. Bon, maintenant, Atalanta, qui font penser un peu à l'Atlético de Madrid, qui se sont détachés avec cette défaite, notamment lors de la dernière journée face à la Fiorentina, hein, avec un Moise Kean en feu, un Moise Kean qui réalise une très belle saison. Et voilà, l'Inter en tout cas premier avec 67 points, Naples deuxième avec 64 points, Atalanta avec 58 points. Bref, on y revient pour débattre sur le tout juste après la pub.
Hey, ça dit quoi l'équipe?
Tous les samedis soirs, 19h.
On échange, on débat, on rigole.
Et il y a des jeux aussi.
Vous m'avez oublié ou quoi?
Non, non, dans ça dit quoi, on n'oublie personne.
De retour dans les locaux de Montparis FM, hein. Il est 21h32 si vous venez de nous rejoindre. Nous allons débattre sur la Serie A, l'Inter de Milan qui sont imposés 2-1 face à l'Udinese. Naples qui se sont imposés aussi 2-1 face à l'AC Milan. L'AC Milan qui sont dans le dur, hein. On a pu voir que contre Sao, bah, c'est une super coupe gagnée, mais derrière, ça peine à remonter au classement. Et là, avec 47 points, c'est assez difficile. On a pu voir aussi la Juventus de Thiago Motta qui n'est plus, puisque Thiago Motta a été licencié la semaine dernière, pendant la trêve en tout cas. Et Igor Tudor qui a repris les rênes de cette équipe et qui a choisi le Serbe face à Randal Kolo Muani, hein, il a préféré Vlahovic à la pointe de cette attaque pour sa première et tout simplement ils sont imposés 1-0 face à Genoa, 1-0 face à Genoa. Bologne qui sont imposés aussi 1-0 et qui sont quatrième. Qu'est-ce que vous pensez de cette Serie A qui est assez folle aussi en termes de bon. Maintenant, ça commence à se dessiner un peu. Bon, il y a Naples, l'Inter, mais l'Atalanta qui se sont décrochés un peu. Mais bon, il reste 8 journées quand même. Léo, qu'est-ce que t'en penses, toi, de...
Ouais, c'est un championnat intéressant, un petit peu à l'image de la Liga. On en parle un petit peu moins en France parce que la diffusion, bon, c'est l'équipe, mais il faut faut payer et tout ça. C'est vrai que la médiatisation du championnat est un petit peu moindre par rapport aux autres grands championnats. Mais c'est un championnat de qualité. Moi, je pense notamment à Bologne, qui a perdu cet été Thiago Motta, qui est parti à la Juve, qui a perdu Riccardo Calafiori, qui est parti à Arsenal, mais pourtant qui continue d'enchaîner et qui est quatrième aujourd'hui. Ils sont sur 5 victoires consécutives, il me semble, dont un succès face à la Lazio. Là, ils ont gagné ce week-end encore. Donc, c'est très, très bien pour la pérennité du club. Igor Tudor qui réussit ses débuts avec un, je sais pas si vous l'avez vu, un super but de Kenan Yildiz face au Genoa.
Ouais.
Super joueur, Yildiz. Le Napoli qui continue, qui a battu Milan, qui est 9 ou 10e, il me semble, donc qui fait une très mauvaise saison. Et l'Inter qui continue aussi avec un succès face à Udinese. Avec un super but de Oumar Solé cette fois.
Vous avez souligné.
Magnifique.
Marcel Lyonnais.
Ouais. Qui est en pétard.
Magnifique but qu'il a marqué. Et puis qui plus est à San Siro. Donc forcément, ça rajoute une dimension un petit peu dramatique à la chose. Je pense, comme on a joué au jeu des paris sur le sujet de Liga, je pense que l'Inter va aussi remporter le titre. Même si on risque d'avoir un Inter-Barça en demi-finale de Ligue des Champions, si le Barça et l'Inter passent leur quart, qui va être forcément très intéressant et qui pourrait avoir son incidence justement sur la fin des championnats, parce que ça va être, si ça arrive, ça va être des rencontres disputées. Voilà, ça va être très sympa aussi la fin de l'année en Italie.
Merci Léo. Jason, qu'est-ce que tu en penses, toi?
Je dirais que l'Inter a décidé de mettre la cinquième en Serie A. Ils étaient pendant un moment co-leaders. Et depuis qu'ils sont repassés devant, ça va être très très difficile de repasser devant pour le Napoli.
Attention, hein, parce que le Napoli qui a que ça à jouer, qui a que le championnat à jouer, donc il se prépare chaque semaine. Et l'Inter avec la Ligue des Champions, est-ce que ça ne peut pas leur porter préjudice? Parce que c'est juste un match, hein. On sait bien qu'en plus, c'est les face-à-face qui comptent, il me semble, en Serie A. C'est ce qu'ils départagent, en tout cas.
Après, l'Inter est préparé à jouer deux fois par semaine, car ils ont quasiment un double effectif.
C'est vrai, ouais.
Si vous remarquez bien.
On pense aux quatre attaquants aussi.
Exactement, ça tourne beaucoup. Il n'y a pas forcément d'équipe type, même si devant, c'est souvent Thuram et Lautaro. Mais sinon, ça tourne beaucoup avec Arnautovic, Taremi. Ouais. Ça tourne beaucoup, même les latéraux. Si vous remarquez bien, les latéraux sont très tôt. Dès la 60 ou 70e.
Zaidi qui fait un travail monstrueux.
Exactement.
Avec
Inter. Voilà, excusez-moi de vous couper. C'est une équipe qui est préparée depuis plusieurs saisons aussi à évoluer à ce niveau-là. Ils ont été champions, ils ont fait une finale de Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude aujourd'hui d'enchaîner les matchs à haute intensité et avec beaucoup de tension. Donc, c'est pour ça aussi que ça fonctionne si bien l'Inter.
C'est exactement ça. Et le Napoli, qui malgré tout fait une énorme saison avec Conte pour sa première saison avec eux, il a repris son chouchou favori qui est Lukaku, qu'il emporte partout avec lui. Et il arrive beaucoup moins à le faire briller, mais il l'utilise dans un autre système un peu avec lui, ce qui le fait moins briller, mais qui l'apporte plus au collectif. Mais malgré tout, ça reste quand même bien huilé. Conte, partout où il va, on sait très bien que Conte, c'est la culture de la gagne. Et ça ferait défaut à son ancien club s'il parviendra à leur shipper le titre. Donc ça va être la bagarre jusqu'au bout. Et l'Atalanta qui chute face à la Fiorentina, ça a été un très mauvais résultat de leur part. Eux qui tenaient les deux équipes de tête depuis un petit moment et qui commencent à s'essouffler petit à petit, malgré qu'ils soient sortis de la Ligue des Champions. Et Bologne, qui est la surprise, même si l'année dernière, ils avaient déjà fait un énorme parcours, je ne m'attendais pas du tout à ce que cette année, ça prenne aussi bien.
Ouais, c'est fort.
Et la continuité de Mota est excellente, malgré les pertes de certains joueurs.
Ouais, même la perte de Mota, tout simplement.
Ah
déjà,
oui,
aussi.
Et un effectif très bien huilé, très dur à battre. Une équipe quand même agréable à voir jouer. Et malgré tout, ils s'en sortent. La Juventus qui commence à ressortir la tête de l'eau. Mais dans tout ça, il y a un grand perdant qui est Randal Kolo Muani, qui, avec l'arrivée d'Igor Tudor, est passé remplaçant. Donc,
bon, on ne sait pas. Hein. C'est juste le premier match. Ça revient de trêve. Mais oui, c'est vrai que ça en dit
un peu. Tudor, quand il finit par mettre un attaquant, c'est quelqu'un un peu d'assez têtu qui persiste avec ses idées. Et souvent, quand on tombe avec un coach comme ça,
vaut mieux que ça se finisse vite. Hein. On a pu voir avec Guendouzi à Marseille, qui est revenu le rejoindre à la Lazio. Guendouzi qui pensait vivre un cauchemar éveillé. Mmh. Et Igor Tudor qui a été remercié aussi de la Lazio. Voilà, c'est pas plus mal en tout cas pour Guendouzi, parce qu'il s'est retrouvé assez rapidement sur le banc. Pourtant, il était assez performant. Mais voilà, c'est vrai que quand ça colle pas avec un coach,
c'est très compliqué.
C'est très compliqué pour le joueur.
En ce qui concerne la Roma, il revient très bien avec Ranieri. Franchement, Ranieri, depuis qu'il a pris les commandes de la Roma, ça se passe très très bien. Dovbyk commence à remettre des buts, même si on s'attendait à beaucoup mieux de sa saison. Il a bien commencé, puis il a commencé un peu à s'étouffer. Et là, il commence un peu à remettre quelques pions, mais ça reste quand même difficile. Je pense que le championnat italien est compliqué pour un joueur comme lui. Ça ne le fait pas beaucoup briller.
Surtout en Espagne, il avait pas mal de jeux et c'est des matchs assez ouverts où il peut s'illustrer, et là même avec dans le type de l'AS Rome qui joue assez défensivement, c'est aussi c'est difficile
ça le met pas du tout en valeur, mais malgré tout il essaie de s'en sortir. Mais le grand perdant dans tout ça, c'est l'AC Milan, malgré son recrutement XXL, a du mal à trouver surtout un attaquant. Ils ont ramené Jiménez de Feyenoord, et malgré ça il met pas beaucoup de buts. Je pense qu'il a mis que 2 buts depuis son arrivée. Abraham qui a marqué aussi que 2 buts, C'est très, très, très compliqué. Donc, beaucoup d'argent de sortie pour très peu de résultats.
Contre Sao aussi, qui est arrivé avec le limogeage de, juste avant de... j'ai oublié qui était à la tête de l'AC Milan. Paulo Fonseca. Fonseca, juste avant, qui a été remercié. Et là, tu ramènes contre Sao avec un gros contrat, parce que derrière, tu limoges, tu payes aussi des indemnités. Ouais. Et finalement, ça ne se passe pas mieux, hein, on voit.
Ça devient un club très dur à manœuvrer, le Milan AC. Ça me fait penser un peu à Manchester United. C'est des clubs qui ont brillé par le passé et qui ont du mal à présent à exister.
Merci Jason.
Moi j'aurais dit me font penser à Chelsea. C'est moi. J'aurais dit plutôt Chelsea moi pour Milan AC parce qu'ils ont énormément de joueurs, énormément d'attaquants et ça marque pas. Jiménez qui a raté encore un penalty hier. On dit Chukwueze, Tammy Abraham. Joao Félix, le mystère, joueur mystérieux.
Itinérant. Ouais.
Raphaël Leao, le joueur le plus inconstant, qui a failli partir au PSG pour 150 millions. Bah, on voit le résultat. Et enfin voilà, ouais, désolé, je vous ai coupé le
non,
sous
non,
le pied.
Non. C'est ça. Bah, c'est bon, hein, je pense que tout le monde s'est exprimé sur... sur l'Inter, on peut, voilà, je vais revenir très rapidement sur Marcus Thuram qui a fait une petite annonce un peu polémique. Je voulais avoir vos avis en tout cas. Thuram qui a annoncé qui fait partie actuellement des 10 meilleurs attaquants du monde. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation, chez Kenza, je t'en prie.
Ouais, ben je crois que le top 10, moi je peux le mettre dans mon top 10. Moi je peux le mettre dans mon top 10 parce qu'en fait. C'est une grande palette de jeu, tout ça, mais qui est plus à l'aise en jouant à deux. Donc oui, il a des bonnes qualités. Moi, oui, je peux le mettre dans mon top 10.
Mais pour faire partie du top 10, il suffit pas juste de savoir dans un attaque à système à deux, quand même.
En fait, oui, même en fait...
Parce
même
qu'on voit avec l'équipe de France...
C'est moyen, c'est...
Non, c'est pas moyen, c'est catastrophique.
Oui, mais moi, je peux le mettre dans mon top 10. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, le niveau qu'il a proposé à l'Inter, ce qu'il a fait, en fait, l'année du Scudetto... Je ne croyais pas vraiment que Marcus Thuram pouvait faire cette saison. Déjà, à Mönchengladbach, en fait, Borussia, c'était un joueur moyen de base. Même si vraiment, il a été formé à l'INFP, voilà, ça a toujours été quelqu'un de moyen. Mais jusqu'à se propulser à ce niveau, l'Inter, c'est un top club européen et tout ça. Donc, et faire une saison comme il a fait, il a par moments un récidive avec des prestations vraiment XXL et tout. Donc, moi, je pourrais le mettre dans mon top 10 déjà pour 1% mental. Voilà, et en fait, pour ça, palette de jeu aussi. Même si ce n'est pas le meilleur, en fait, l'attaquant, comme on veut le voir, c'est une technique.
On a compris, chez Kenza. Merci beaucoup, chez Kenza. En tout cas, toi, tu le mets dans ton top 10. Léo ?
Est-ce qu'on parle de buteur ou est-ce qu'on parle d'attaquant ?
Il a dit attaquant.
Attaquant.
Il n'a pas dit
buteur. Attaquant.
Si on compte les ailiers, il n'est pas dedans.
C'est ça, si on compte les ailiers, juste en regardant en Liga, j'en ai déjà, sans réfléchir, j'en ai déjà 5 meilleurs que lui.
Je ne sais même pas s'il est dans le top 20.
Moi je suis d'accord. Je sais pas s'il est dans le top 10. Ouais. Parce que déjà, j'aime.
Non, est-ce qu'il est dans ton top 10
Là, j'ai pas réfléchi à ça.
Là, je te pose la question. Est-ce qu'il est dans ton top 10
Aujourd'hui, j'ai un peu de mal à me dire qu'il est dans mon top 10. Pour autant, il en est pas loin. S'il l'est pas, il en est pas loin. Il est dans certainement mon top 15. Dans le top 10 des buteurs, il y est par contre. Aujourd'hui, je pense.
Non,
en club.
Excuse-moi, vas-y, continue.
En club, en tout cas. En club, en tout cas.
Top, il est quatrième en
Série A. Mais il faut aussi voir que son rôle, c'est pas uniquement de marquer des buts à l'Inter, puisquiil joue aux côtés de Lautaro Martinez. Il se tourne beaucoup autour, il le sert, tout ça. Il y a autre chose. Après, ses qualités, moi, je trouve qu'elles sont réelles. C'est un très bon joueur. Après, oui, le top 10, la question, je te disais en Liga, déjà, je vois Rodrigo, Mbappé, Vinicius, Yamal et Rafinha déjà meilleurs que lui.
Lewandowski.
Lewandowski, aujourd'hui.
Rodrigo, tu le mets pas au-dessus. Rodrigo.
Il a mis Rodrigo.
J'ai mis Rodrigo.
Il a dit Rodrigo.
Déjà, juste...
Pas Lewandowski
En fait, Lewandowski, je pense que... Moi, j'adore Lewandowski et je le défends toujours. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on parle... En termes de niveau d'attaquant, Lewandowski, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un joueur de surface. Aujourd'hui, la palette proposée par Thuram,
Elle est plus lâche.
Fait que voilà, exactement. Fait que la... Après, je pense qu'en termes de buteur, Lewandowski est devant Thuram. Mais en termes d'attaquant, je pense que Thuram est devant Lewandowski.
Merci Léo. Amadou, on va finir avec Jason. Hein. Jason, ouais. Amadou, vas-y, je t'en prie.
Enfin, je suis désolé. Bon, je pense peut-être sûrement il a dû dire ça pour se motiver lui. Mais je ne le mets même pas dans le top 20. En plus, là, j'ai une liste devant moi. Je suis au moins une vingtaine de joueurs. Et lui, je sais que dans le classement...
Amadou, s'il te plaît, dans le micro, Amadou.
Je vois que
non, si tu baisses la tête, Amadou, on ne t'entend pas. À chaque fois, il faut que tu te redresses.
Je vois qu'il y a un classement des 5 grands clubs européens. Il est, je crois qu'il est le 28e meilleur buteur déjà. Après, on parle d'attaquants. Il y a énormément d'attaquants devant lui. Peut-être qu'il fait partie de top 10 en Serie A, mais pas dans le monde. Il y en a plein. Mbappé, Moïse Keane, Lookman, Guirassy, Marmouche, Haaland. Il y a du monde. Il y a top 10, c'est un peu quoi.
Il est mieux que Marmouche. Il est mieux que Marmouche.
Il a marqué 25 buts cette saison.
Marmouche à Francfort.
Il a marqué 25 buts toute compétition avec City et Francfort.
Cette saison.
Thuram, il a marqué 16 buts toute compétition.
Excuse-moi, mais attends, là, t'as parlé de Marmouche. T'as vu la palette de Marmouche. Il marque des coups francs. Non, mais attends, franchement.
Il y a Isaac. Isaac, Jérétégui. Il y a du monde, là. Peut-être Patrick Schick, Alvarez, Jonathan David, 23 buts dans la saison.
Alvarez, combien de buts il a marqué en Ligue 1 Il en a 10 ou 11, hein, Alvarez seulement.
Roland Alvarez, oui, c'est possible.
Alvarez, je le vois au-dessus.
C'est la palette qu'il a, qui fait qu'il est plus intéressant que Thuram.
Et il avait des débuts assez difficiles. Ouais, maintenant, il s'est adapté. Il s'est adapté.
Alvarez, il a 11 buts en Liga.
Ouais. Donc Amadou, toi, c'est bon, ça, tu ne le mets pas en tout cas.
Ah non, moi, je ne le mets même pas dans le top 20.
Okay,
mais en tout cas, il est très bon à l'Inter. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais je ne suis pas un grand fan. C'est un très bon joueur. Après, à l'Inter, en tout cas, il est très, très bon.
Okay, merci, Amadou.
Après, moi, me concernant sur cette question-là, si on compte les ailiers, il n'est pas du tout dedans. Parce que si on commence à compter les Salah, les Lookman, les Rafinha, tous ces joueurs-là des grands championnats, il passe derrière. Après, il a une palette très intéressante dans un système particulier. Donc, c'est ça qui est difficile à juger avec Thuram. C'est que quand on le met tout seul devant, il n'est pas aussi performant qu'à deux. Donc déjà, pour être un grand attaquant, si on n'arrive pas à s'adapter à plusieurs systèmes, ça peut être compliqué. Après, peut-être qu'il n'a pas eu le bon fonctionnement en jouant seul devant. On ne peut pas le savoir. On pourra le savoir que s'il change de club. Mais pour l'instant, peut-être dans un top 10 que de numéro 9, il peut être à la porte. Parce que maintenant, des grands numéro 9, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup de grands numéro 9, donc il peut être à la porte du top 10.
Alors... Mais la question sera toujours, est-ce qu'on met Mbappé en top 9 dans les top 9 est-ce qu'on
Mbappé,
mettra...
c'est un 9 aujourd'hui.
Oui,
aujourd'hui c'est un 9.
Est-ce qu'on mettra Ousmane Dembélé dans le top 9
Donc il y a du beau monde.
Salah, tu le mets où? Du coup, Salah tu le mets pas. C'est pas un 9, c'est un ailier. Mais
Dembélé, je suis moins d'accord que Mbappé, par exemple. Tu vois.
Ouais, non, Dembélé, on le mettrait pas. Moi, je le mettrais pas dans le 9.
Moi, cette année, je le mettrais parce qu'il évolue 9. Mais sinon.
Mais tu vois, t'as un Kane aussi, par exemple.
Ah oui,
Kane. On en parle pas. Guirassy.
Mais si on.
Un Kane, c'est au-dessus de Marcus.
Ah oui, excusez-moi. C'était une question chez Kenza. C'était une question.
Gakpo, il y a même Gakpo
Gakpo joue comme Thuram.
Ouais.
Après, en tant qu'attaquant pur des grands championnats devant, il y a déjà sur Harry Kane, là il y a Haaland,
il y a Sorloth.
Il y a Lewandowski pour moi, il y a non, Sorloth, je pourrais pas te dire parce que pour moi, il est pas encore
15 buts cette saison toute compétition.
Je reste pas que sur ses buts, je reste aussi sur ses performances. Voilà. Ce qu'il apporte dans le jeu, d'accord, certes, il a la finition, mais dans le jeu, sur l'autre, dans le match, tu ne le vois pas exister. Que Thuram, il existe beaucoup, il travaille beaucoup pour l'équipe. En fait, il fait ce que faisait Lukaku à l'époque quand il était à l'Inter, c'est qu'il décroche. En fait, il fait le sale boulot. Donc, de temps en temps, ça lui permet de finir, mais sinon, il est au service de Lautaro. Et Lautaro, à son époque, c'était lui qui était au service de Lukaku. Donc, ça s'est un peu inversé. Mais Thuram, je pense qu'il a la porte du top 10. Mais après, dire qu'il est dans le top 10, non.
Non, présente plus.
Merci, merci.
Excuse-moi, est-ce que c'était une question pour Harry Kane ou pas?
On va en rester là. Léo, merci. On va se faire une petite virgule avant de revenir avec le championnat allemand, Leipzig, qui sont inclinés 1-0 au détriment de Marco Rose, qui a été remercié. On y revient tout de suite. Le RB Leipzig se sont inclinés 1-0 face à Mönchengladbach. La défaite de trop qui coûte la place du coach Marco Rose, limogé après cette défaite. Le Bayern qui se sont imposés 3-2 face à Saint-Pauli malgré des blessures, la blessure de Davis dernièrement et aussi la blessure de Ito, ce qui a fait que le Bayern même ont terminé à 10 contre 11 hein, parce que tous les changements avaient été effectués. Ito qui se blesse vers la fin. Du coup le Bayern qui ont joué à 10 contre 11 pendant un peu moins de 10 minutes, un peu plus même de 10 minutes. Et Dortmund qui se relance en gagnant 3-1 face à Mayence. Le Bayer Leverkusen qui avait mis la pression juste avant sur le Bayern en s'imposant 3-1 aussi face à Bochum. Francfort sont imposés 1-0 face à Stuttgart et qui conservent leur place de troisième. Quelles sont vos impressions très rapidement, s'il vous plaît, sur ces journées de allemandes? On va commencer avec toi, Madou.
Bah, le Bayern qui est toujours devant, comme d'habitude, là, il a combien, 6 points d'avance. Par contre, ouais, c'est pareil, là, il y a de plus en plus de joueurs qui commencent à se blesser. Bon, après, il faudra voir avec la Ligue des Champions parce que, bon, vu que le Bayer Leverkusen ne joue plus rien, bon. Normalement, le favori, ça restera le Bayern. On voit Leipzig qui n'arrive plus. Voilà, Dortmund qui se relance contre une équipe de Mayence qui est quatrième en plus.
Équipe surprise.
Mais Dortmund, en fait, c'est quand on ne les attend pas, ils gagnent. Dortmund, ils sont forts et faibles contre les moins forts.
Contre tout le reste.
Ok, merci. C'est bon pour toi, Madou?
Ouais.
Plus grand chose à dire.
Non, je n'en ai pas en tête, je vais laisser mon collègue.
Merci Amadou. Cheikh Kenza, qu'est-ce que tu en as pensé toi de cette journée de Bundesliga et bien évidemment le Bayern leader?
Tout est respecté. Hein. Peut-être Leverkusen, je misais plus sur eux pour que ça soit l'année vraiment de la consécration, de montrer vraiment que tout ce qu'ils avaient fait, c'était pas un pur hasard.
Ouais, c'était pas un pur hasard, ils sont quand même deuxième avec 6 points.
Quand tu as été vraiment leader, tu ne sois une saison comme l'année dernière, tu dois vraiment récidiver avec de bonnes choses et pourquoi pas titiller même le Bayern, pourquoi pas même être toujours leader parce que tu as. Je crois que cette saison, Xabi Alonso se trompe un peu beaucoup dans ses choix.
Il teste beaucoup de formules.
Voilà, donc du coup, il n'est pas dans la continuité de ce qu'il avait. Il s'est mélangé un peu dans ses choix tactiques.
Il se prépare pour le Real.
On l'espère, vraiment. Mais ce n'est pas la meilleure manière de se préparer déjà parce que là, il s'entraîne mal avec ses exercices tactiques. Et donc, ça commence vraiment à faire grincer un peu les dents, parce que vraiment, ce club déjà qui n'avait pas l'habitude de gagner, donc quand tu lui mets quelque chose à la bouche, ils ne veulent pas vraiment que tu l'enlèves aussitôt,
Merci, Chekenza. Léo.
Tu parlais d'Alonso au Real, mais selon la presse allemande, lui et Wirtz devraient rester un an de plus à Leverkusen. On verra si ça se confirme ou non. De plus, je pense que tu prends le problème à l'envers dans le sens où je pense que le Bayer Leverkusen, c'est plutôt la saison dernière qu'ils ont fait quelque chose auquel personne ne s'attendait, à savoir terminer déjà être champion devant le Bayern, qui est déjà un exploit en soi, ne pas perdre une seule fois de la saison en championnat et perdre une seule fois tout court durant la saison. Et cette année, du coup, ils continuent de les titiller à 6 points. Même si c'est moins brillant, même s'il y a moins de retournements, même s'il en reste, parce que ça, j'ai l'impression que c'est un peu l'ADN de cette équipe de toujours tout donner jusqu'au bout. T'as des événements qui tournent un petit peu moins en leur faveur. Le Bayern est moins brillant que ces dernières années, que les grosses périodes de domination du club aussi. T'as Dortmund qui est lâché dans la course au titre depuis bien longtemps, malheureusement, puisque... Personnellement, j'aime beaucoup ce qui se dégage de Dortmund, mais force est de constater que c'est une équipe qui est trop inconstante, qui a des manques, qui a des postes clés aujourd'hui. Le Bayern, s'ils font pas n'importe quoi, même s'ils vont laisser des plumes forcément contre l'Inter en termes au moins énergétiques, devrait
surtout là avec les blessés,
c'est ça, devrait aller au bout. Après, ils ont pour eux d'avoir un effectif qui est complet, d'avoir un secteur offensif qui est très garni avec, pour moi, ce que je considère le meilleur neuf de la planète. Des ailiers qui...
Harry Kane,
pour moi, est le meilleur neuf aujourd'hui de la planète. Depuis... Non, je vais pas dire depuis plusieurs saisons. Parce que ça...
ouais, parce qu'il y avait Benzema. Ouais, quand Benzema, il est parti. Voilà. Ouais. Quand Benzema, il est parti, j'adore... peut-être c'était Harry Kane.
Moi, j'adore Harry Kane. Ouais, depuis... comme... Mais c'est un joueur, je pense, qui est sous-coté par rapport à tout ce qu'il a fait.
Il gagne pas de titre,
mais c'est un mec à moi. C'est un mec qui marque but sur but. Ouais. D'ailleurs, il le montre au Bayern la saison dernière, encore une fois. Moi, j'adore ce joueur, mais voilà. C'est un mec qui marque à tout... qui marque tout le temps,
qui fait tout,
exceptionnel, et puis qui a déjà 30 ans, c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre. Enfin, il a un palmarès personnel fou. Et cette saison, on espère pour lui qu'il gagne enfin quelque chose. Ce qui est le plus probable, c'est la Bundesliga, même si je crois que dans mes paris qu'on avait fait il y a deux semaines, j'avais dit que le Bayern sortirait l'Inter, mais on n'en est pas encore là.
On y arrive très prochainement. Léo, s'il te plaît, si tu peux y courir.
Ouais,
très
et puis voilà, je pense que le Bayern va finir la saison champion et retrouver son trône.
Merci Léo. Jason, pour conclure sur cette journée de Bundesliga.
Ouais, pour cette journée de Bundesliga, moi je dirais que Dortmund fait une bonne opération parce qu'il se relance pour jouer au moins la Conference League. Parce que ça serait triste de voir Dortmund ne jouer aucune compétition européenne, même s'il leur reste la Ligue des Champions en cours. Donc, il leur reste maintenant de rester constant jusqu'à la fin. Et en ce qui concerne Leipzig, très, très, très déçu de leur saison, car très inconstant, Leipzig. Que des hauts et des bas, des hauts et des bas. Même Sesko ou Openda, très compliqué cette saison. Moi qui m'attendais à ce qu'ils cartonnent cette saison, mais pas du tout. Ouais. Donc, très difficile. Et cette défaite à Mönchengladbach qui fait très mal. Et qui voulait le licenciement de leur entraîneur. Ils sont sur la continuité. Maintenant, je ne sais pas qui va reprendre cette équipe. Donc,
ça a été annoncé, il me semble. C'est, comment il s'appelle ? C'est la première fois qu'il va avoir un club, d'ailleurs. C'est le fils à l'ancien Lowe.
Joachim
Löw, c'est le fils à Joachim Löw qui est adjoint, qui a été adjoint plusieurs fois, et là qui aura, il me semble que c'est ça que j'ai vu passer.
Attention qu'ils prennent pas Löw après.
Voilà. Mais en tout cas, voilà. Vas-y, Jason, je t'en prie.
Et le Bayern Leverkusen qui reste sur une certaine dynamique, donc qui malgré que pour aller chipper le titre au Bayern, ça va être compliqué, mais qui reste sur sa lancée. Et à voir s'ils sont capables de rester constants, étant donné que je ne sais plus s'ils sont sur le site de Ligue des Champions.
Qui
le Leverkusen.
Ils sont par
le Bayern. 3-0 et 2-0. Voilà.
Ouais. Ben, s'ils peuvent aller essayer de titiller le Bayern pour le titre, le reste à voir.
Ça serait bien.
Ouais.
Merci Jason, en tout cas, pour compléter cette analyse sur la Bundesliga. On va enchaîner avec un petit quiz, parce qu'il nous reste 2-3 petites minutes. On va enchaîner avec un petit quiz à vos manettes, si vous pouvez poser vos téléphones. Check Kenza, s'il te plaît. Merci. Première question, c'est parti pour le top chrono. Première question, qui a été le Golden Boy 2018 ?
Mbappé ?
Non.
Paul Pogba.
2018.
Non, pas
du. Je vais trouver.
2018.
Foden ?
Non.
Vinicius ?
Non plus.
Okay. Non, c'est pas Pedri, c'est plus tard.
Non, c'est pas Bellingham.
Non. Je vais vous donner un indice. Il jouait à l'Ajax.
Mathis Delight.
Mathis Delight pour Cheikh Kenza. Voilà.
Du coup, voilà.
Pour la deuxième question, on va enchaîner. Hein. Du coup, ça fait un point pour Cheikh Kenza. On va pas s'en faire beaucoup, mais voilà. Quel est le record d'invincibilité en Liga ? Qui détient le record d'invincibilité en Liga ?
Ça doit être Barcelone, de toute façon. Ça. Mais je sais pas.
Avec combien de matchs ?
50 et quelques, non ?
50 et quelques, ça veut rien dire.
56.
Non.
Je dirais...
54 matchs.
Non plus.
33. 40 matchs.
33.
Non plus.
19 matchs.
Non.
46.
Non. Non, c'est pas le Real de Mourinho.
Non.
C'est Mourinho, c'est l'équipe avec plus de points.
Oui, j'ai gagné, j'ai dit Barça.
Non, c'est le Barça, mais ouais. Avec c'était le nombre de matchs, en fait. C'est ouais. Ça que je voulais.
56 quoi...
Non. Ouais.
Ah, 39.
C'est entre 40 et 50.
Ah,
42.
46
Non.
43.
43 matchs d'invincibilité pour le FC Barcelone. On s'en fait une petite dernière. Qui a gagné la Serie A en 2004-2005?
Parme.
Juventus.
La Juventus, mais je n'accorde pas parce qu'il y a une petite histoire en fait. La Juventus sont descendus avec cette fameuse histoire voilà, où lui et l'AC Milan, où il y a eu des matchs truqués. Du coup, c'est revenu à l'Inter qui était troisième de ce championnat. Je vais vous en faire une toute petite dernière. Qui a gagné la FA Cup en 2012-2013?
Manchester United.
Arsenal.
En 2012-2013.
Oui. C'était face à Manchester City. Manchester City se sont inclinés 1-0.
Chelsea.
Non.
Liverpool.
Non plus.
2012-2013.
Vous l'avez pas?
Arsenal. Non, ça se trouve, c'est pas une grosse équipe.
C'est ça.
C'est pas une grosse équipe.
C'est pas Reading.
Non.
C'est.
Portsmouth. Non, je vais vous le donner, c'est Wigan. Wigan qui sont imposés face à Manchester City, 1-0. Ouais. Voilà, c'était tout pour cette émission. Hein. Merci à Léo, à la technique. Merci à Sheikh Kenza. Merci à Jason.
Merci à toi.
Merci à Amadou. Merci à Léo. Et merci à vous surtout d'avoir été là. Et on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et bonne soirée à vous.